1, 2, 3, 4, 5, 6.
Bonjour à toutes et à tous, c'est Yann avec vous pour l'émission Le Grand Tout qui aujourd'hui accueille Hugo Prigent, compositeur rennais, dont une des pièces, le concerto pour clarinette basse et quatuor à cordes, sera joué vendredi soir par le quatuor Vitis et Philippe Le Cacheux au conservatoire sur le site du Blône. À part ça, quelques nouveautés, un musicien néo-zélandais pour débuter l'émission, les néerlandais Yin Yin pour notre disque d'or de la semaine, l'album Yata, et puis encore un extrait de la compilation dédiée à des reprises des Talking Heads proposée par le label BBE. Aujourd'hui, ce sera le brésilien Roger qu'on écoutera, et puis on terminera tout à l'heure avec une info-concert, encore une fois consacrée au festival Autre Mesure, où je vous ferai entendre une longue pièce de Bridger Heimbel qui joue jeudi soir à l'Antipode, avec aussi une longue pièce de Megabass. On part du côté donc de la Nouvelle-Zélande avec ce musicien nommé Zerav, Z-H-E-R-A-V, qui donne un premier single pour le label Bat of Records. Je vous ferai entendre le titre Nadja, oui, comme les serpents, les cobras indiens. Un morceau très sinueux, très groovy, mais assez lent tout de même, avec quelques sonorités moyennes orientales pour un producteur qui est à la base un producteur de musique électronique, mais il s'est rendu compte qu'il pouvait utiliser quelques templates qu'il avait pour créer des pièces plutôt techno, house techno, pour créer aussi eh bien, ce morceau où la guitare est vraiment au premier plan. Voici donc le titre Nadja pour Zerav, premier single donc qui sort sur le label Batov le 13 mars prochain. Bonne émission. Vous les entendrez toute la semaine puisque leur quatrième album Yatta est le disque d'or dans le Grand Tout cette semaine. Des ambiances voyageuses qui nous emmènent du côté de l'Asie du Sud-Est avec notamment le titre qu'on écoutait à l'instant, Slow Burner. On va poursuivre au Brésil mais avec une escale new-yorkaise si vous voulez bien, ou l'inverse d'ailleurs. Les New-Yorkais, les Talking Heads, repris par une ribambelle d'artistes qui pousse un petit peu la musique du groupe de David Byrne vers des ambiances plutôt groovy, plutôt soul, jazzy, un peu électro aussi. Très bonne compilation que cette Naive Melodies qui vient tout juste d'être sortie par le label anglais BBE. On écoute le titre Road to Nowhere, reprise donc des Talking Heads par Roger.
Thank you.
C'était encore un extrait de la compilation Naive Melodies dédiée à un hommage aux Talking Heads, à l'instant le musicien brésilien Roger. On va parler aujourd'hui dans Le Grand Tout avec un compositeur de musique contemporaine. Ah oui, alors c'est pas si souvent que ça arrive, je sais bien, dans l'émission Le Grand Tout. On va parler avec Hugo Prigent. Bonjour.
Bonjour, merci de me recevoir.
Ah mais avec plaisir, que vous retrouverez le 30, ce vendredi 30 janvier, lors d'une première partie d'un concert de Vanessa Wagner dans le cadre du festival Autre Mesure. Alors c'est vrai, vous le savez peut-être, depuis quelques jours ou même quelques semaines, le concert de Vanessa Wagner est complet, mais vous pourrez tout de même aller découvrir ce concerto pour clarinette, basse et quatuor à cordes composé par Hugo Prigent et qui sera joué là par le quatuor Vitis avec à la clarinette basse soliste Philippe Lecacheux. Ça sera dans le hall du conservatoire au Blône, sur le site du Blône. On va parler avec toi de comment on en arrive à composer des pièces de musique contemporaine. Alors tout simplement, j'imagine, on aime la musique, on pratique la musique, on compose de la musique, mais c'est peut-être pas si évident que ça quand même. Comment toi tu t'es jeté, Hugo, dans la musique et par quel instrument tu as commencé ?
Alors je crois que c'est une évidence pour moi que la composition, enfin, c'est vraiment un besoin impérieux. Ça m'est venu progressivement. En fait, c'est vrai que j'ai commencé la musique sur le tard. La musique, c'est vraiment une découverte. Au début, la musique, c'est peut-être un refuge un peu abstrait, et puis ça devient ensuite, les idées arrivent, et j'ai commencé la musique, finalement, la pratique musicale après cette étape-là. J'ai fait un peu de violon, je pratique un peu le piano, mais je ne suis pas vraiment instrumentiste. C'est vrai que c'est arrivé vraiment quand j'étais lycéen, c'est ce début de pratique, et puis à l'heure du choix, au moment où voilà, il faut choisir une voie, eh bien la musique s'est imposée en fait à moi, et également sa transmission. Et c'est vrai que là, j'enseigne la musique, et finalement, composer, c'est également transmettre une émotion, quelque chose d'abstrait, et lui donner peut-être quelque chose qui fasse partager ses propres émotions à autrui par le biais du son.
Alors cette pièce-là, ce concerto, il va être donné pour une des premières fois ou il a déjà été joué avant les répétitions que vous avez pu avoir ?
Alors il a été
après les répétitions plutôt.
Oui. Alors il a été créé en fait en mai dernier à Chantepie, à l'église de Chantepie, donc par le quatuor Vitis, qui est un quatuor de musiciennes rennaises et qui travaille là pour ce projet avec Philippe Lecacheux qui est clarinettiste également à Rennes. Donc ce sont des musiciens vraiment rennais qui sont professionnels de leur instrument et qui se retrouvent vraiment pour le plaisir musical dans ces cadres de concerts qu'ils peuvent donner régulièrement.
Ça répondait à une commande, il me semble, c'est ça ?
Alors, c'est une commande qui s'est faite un petit peu sur le temps long, en fait. C'est depuis 2020, en fait, que ce projet est en gestation. Philippe Lecacheux, donc, souhaitait acheter une clarinette basse, enfin, faire l'acquisition d'une clarinette basse qui est un peu spéciale, qui peut descendre un petit peu plus bas que la clarinette basse d'orchestre, enfin, qui peut faire une note plus grave pour vraiment avoir un timbre complet. Et donc, il avait un projet avec le quatuor Vitis de jouer une œuvre emblématique du répertoire pour clarinette et quatuor à cordes, à savoir le quintet de Johannes Brahms. Donc là, pour le quintet, il utilise une clarinette plus classique, c'est la clarinette en La, et il voulait vraiment une œuvre nouvelle pour la clarinette basse, et donc il s'est dit que ce projet, avec en plus le quatuor vitis, pouvait éventuellement être stimulant pour un compositeur. J'avais déjà un petit peu travaillé avec Philippe, notamment avec un projet qui s'appelle Matin Brun, qui avait été donné au Champ Libre, ça fait maintenant quelques années, et puis donc on se connaissait mutuellement. Il avait aussi fait appel à moi pour des petites pièces pédagogiques à l'école de Cesson où il travaille, et du coup l'idée s'est faite naturellement. Et dans le quatuor, je connaissais déjà un petit peu aussi au moins une des musiciennes qui a souvent joué ma musique, donc voilà, les choses étaient assez naturelles avec ces cinq musiciens. 2020 est venue la commande, le premier mouvement, et puis ensuite il y a eu le Covid, il y a eu plein d'éléments, en ce qui me concerne la paternité aussi, donc tout ça, ça a un petit peu laissé les choses en jachère, et c'est vrai que les deuxième et troisième mouvements sont arrivés après, et pourtant je tenais vraiment à ce que l'œuvre soit un tout compact, et même cyclique, c'est-à-dire qu'il y a vraiment des motifs qui passent d'un mouvement à l'autre. Donc voilà, la gestation a été assez longue finalement, et je pense que même le premier mouvement appartient à un style qui n'est plus tout à fait le mien maintenant, même si je pense que, enfin je l'assume complètement, et je pense que l'œuvre reste cohérente, mais il y a un parcours, il y a à la fois une cohérence et un parcours dans cette œuvre musicale, et je pense qu'elle sera importante en fait pour moi.
On écoutera un extrait d'un enregistrement de travail de ce concerto pour clarinette basse et quatuor à cordes. Tu précises sur YouTube en fait où on peut l'écouter, hein, cette version de travail, qu'il n'y a pas de texte ou d'argument qui préexiste à ce concerto là, c'est-à-dire que vraiment tu pars de rien.
Oui, et c'est aussi peut-être quelque chose que j'ai pas souvent fait finalement. C'est vrai que souvent on répond à des commandes avec oui un argument ou une idée, et j'aime bien faire ça, j'aime bien aussi mettre de l'engagement. Il y a plusieurs pièces que j'ai écrites, notamment pour l'ensemble Chrysalide ou autre, où j'essaie de mettre aussi mon engagement. Enfin, faire de l'art, c'est déjà un engagement en soi, mais on peut en plus, c'est vrai parfois, être préoccupé par notre société, par l'environnement, par des éléments comme ça, et j'aime bien en parler. Mais là, pour le coup, effectivement, il s'agit vraiment de musique pure. J'ai vraiment voulu, pour cette pièce qui dure assez longtemps, qui dure une vingtaine de minutes, vraiment plonger le spectateur dans quelque chose à la fois d'abstrait et d'émotif, quoi. Donc, y a un travail musical, un exercice aussi pour le compositeur de travail sur des motifs musicaux, sur des timbres, des textures, des échanges entre les instruments aussi. Il y a un jeu d'échange entre la clarinette basse et le quatuor. Et donc vraiment de suivre une forme antique, si on peut dire, enfin du concerto qui date déjà de plusieurs siècles, et en même temps de m'en affranchir aussi pour faire une musique personnelle.
Quand tu citais Matin Brun tout à l'heure, on est bien sur cette nouvelle française qui fait référence aux chemises brunes.
Oui, bien sûr, merci de le préciser, effectivement, oui.
Donc là, on peut imaginer l'envie d'être dans son art un peu plus qu'engagé parce qu'on est artiste. On a envie de dire quelque chose en plus, quoi.
Oui, alors le projet Matin Brun, on peut aussi en écouter des petits extraits sur YouTube. C'était un projet qui, j'espère, un jour pourrait d'ailleurs reprendre corps, qui sait, qui s'adressait aussi au jeune public, à un jeune public. Et l'idée, c'était vraiment de lier la musique et le théâtre avec une adaptation qui avait été faite par le cabaret Nomade. Et donc, l'idée, c'était vraiment de mettre en musique la transformation, l'uniformisation du monde. Et donc, j'avais collaboré avec Yves Crière, ancien professeur d'université, mon ancien professeur qui m'a beaucoup appris en termes de composition et qui avait fait appel à moi. Donc, on avait co-composé cette pièce, une composition à quatre mains. On avait chacun nos pièces, mais l'ensemble, on avait quand même travaillé à une cohérence sur l'ensemble. Et il y avait des musiques de transformation quand les personnes deviennent un peu plus brunes. À chaque étape, il y avait vraiment cette idée de presque de rituel. J'aime beaucoup le rituel et le côté répétitif dans la musique. Et lui, il avait composé des passages aussi qui sont assez extraordinaires, je trouve, de destruction, où il mettait en musique la destruction d'une pièce, en écrivant les rythmes de destruction d'objets, etc. Et je trouve que c'est vrai que c'est une pièce qui pourrait peut-être un jour ressortir, qui sait.
On revient à ce concerto pour clarinette basse et quatuor à cordes, et justement, on va en écouter un extrait. On est au début du deuxième mouvement, la clarinette vient de jouer, et puis là c'est les cordes qui vont commencer. quelques idées de ce qu'on va entendre là maintenant ?
Eh ben, c'est un petit moment de respiration. Après un premier mouvement assez furioso, la clarinette basse donne le point final au premier mouvement avec une cadence un petit peu, avec des figures musicales un petit peu vraiment contemporaines. Et puis on arrive sur un moment de respiration où les cordes vont reprendre un petit peu la parole. La clarinette reste quand même en fond, en tapis, elle est jamais très loin, mais un petit moment, une mélopée un peu suspendue, on pourrait voir ça comme ça éventuellement.
Vous pourrez retrouver le quatuor à cordes et la clarinette basse pour ce concerto de Hugo Prigent avec le quatuor Vitis et Philippe Lecacheux. Vendredi, c'est au conservatoire Paul Blon. Quelle heure c'est ?
C'est 19h30, l'avant-concert. Ouais,
donc, c'est 19h et c'est dans le hall du conservatoire. Et si vous avez eu l'information comme quoi le concert de Vanessa Wagner était complet, puisque tu fais la première partie, en tout cas, cette pièce fait la première partie du concert de Vanessa Wagner, vous pourrez tout de même assister au concerto pour clarinette basse et quatuor à cordes, parce que voilà, je le répète, c'est dans le hall. On écoute donc cet extrait. Vous écoutez Le Grand Tout sur Canal B. On parle avec le compositeur Hugo Prigent et on écoutait une de ses pièces ici, concerto pour clarinette basse et quatuor à cordes. Vous la retrouverez jouée par le quatuor Vitis et Philippe Le Cacheux vendredi soir. C'est dans le cadre du festival Autre Mesure. C'est au conservatoire Paul Dublon dans le hall que vous pourrez retrouver une version sans doute qui sonnera pas exactement comme ça. Je le répète, c'était une version d'un enregistrement de travail qu'on entendait à l'instant, enregistré dans un appartement, Hugo, tu me disais.
Tout à fait, oui. Un appartement, un salon d'appartement. Oui.
Une pièce qui peut-être aura droit à une meilleure prise de son prochainement, c'est dans les idées, ça?
Ce serait effectivement une bonne chose pour garder un petit peu, et pour valoriser le travail des musiciens, oui, dans l'année, de trouver un moment pour en faire un enregistrement digne de ce nom, effectivement. Oui.
Alors, il y a eu des transformations par rapport à la version qu'on retrouve sur YouTube, là?
Alors, les principales transformations, je pense, seront au niveau de l'interprétation des musiciens qui auront pris plus de recul, que c'est souvent le cas avec des musiques récentes, avec des choses un petit peu nouvelles, des traits musicaux qui sont pas forcément toujours naturels. Il faut peut-être un peu de temps, un peu de recul. Et c'est vrai que c'est super d'avoir cette opportunité de la redonner, cette pièce, pour pouvoir vraiment... moi, ça m'a permis aussi de donner des instructions un peu plus précises aux musiciens, de leur donner des pistes de travail que j'avais pas encore peut-être réussi à verbaliser la première fois. Je pense qu'ils en sont bien heureux. Et du coup, effectivement, peut-être au niveau des équilibres, il y a quelques modifications qui ont été apportées à la partition. J'ai un petit peu étiré ce second mouvement là qu'on était en train d'entendre. Mais c'est surtout, je pense, vraiment au niveau de l'interprétation que l'œuvre aura mûri.
On retrouve sur la page YouTube de Hugo Prigent quelques autres pièces, en fait. Est-ce que certaines ont été enregistrées dans des véritablement bonnes conditions?
Honnêtement, la réponse va être très courte. Je crois qu'on peut dire non. C'est-à-dire que à chaque fois, j'ai eu la chance d'avoir des musiciens investis qui vraiment travaillaient les partitions avec conscience. Mais souvent, effectivement, le problème pour la musique, pour le compositeur contemporain, et puis peut-être pour le compositeur contemporain qui n'a pas forcément beaucoup de visibilité, comme c'est mon cas, c'est souvent par le biais de commandes amicales que les choses se font, et les musiciens, donc, du coup, ont aussi une vraie... ils ont une vraie conviction dans le travail qu'ils vont faire. Ils vont vraiment oser. C'est une aventure pour eux, je pense, de commander une pièce qui n'existe pas et ils ne savent pas ce qui va sortir de ma tête. Et donc, à chaque fois, ils jouent vraiment avec conviction, avec un vrai investissement. Par contre, effectivement, les prises de son qu'on peut entendre là, non, c'est pas optimal. C'est souvent moi qui pose un H2 lors d'un concert, par exemple, ou lors d'une répétition. Et ça fait des souvenirs. Ça me permet aussi, moi, de garder des éléments pour m'améliorer, pour voir comment ces pièces-là peuvent être évoluées. Souvent aussi, et c'est le cas des compositeurs contemporains, confidentiels comme les plus connus, ils vont dire que souvent une pièce n'est jouée qu'une seule fois ou assez peu. C'est, dans la musique contemporaine, c'est vraiment la face visible de l'iceberg où il y a quelques pièces qui ont le droit d'avoir une vie sur plusieurs continents ou sur plusieurs orchestres ou plusieurs ensembles. Mais sinon, souvent, même pour des compositeurs contemporains connus et reconnus, le vrai drame, c'est de n'entendre que très peu leur musique.
Je n'ai pas cité les musiciennes qui sont autour de Philippe Le Cacheux, qui lui joue de la clarinette basse soliste. Sur l'enregistrement qu'on entendait, au violon 1, c'est Virginie Blais, au deuxième, c'est Claire Van Rijn.
C'est Van Rijn, je crois.
Van Rijn, et puis à l'alto, c'est Catherine Babonneau. Tandis qu'au violoncelle, c'est Anne-Marie Van Heul. Ce seront elles qui seront toujours dans cette formation.
Toujours elles, qui sont toujours là, Couture Vitis, qui vont jouer vendredi. Ouais.
Ça peut être intimidant aussi, peut-être pour des musiciens, des musiciennes qui, contrairement aux musiciens qui jouent des pièces classiques, n'ont aucun risque de voir le compositeur dans la même salle qu'eux, alors que là, ça peut être le cas. Est-ce que ça rajoute un petit peu de complexité, ça, ou quoi? Parce que ça peut... Est-ce qu'un compositeur peut se dire « Ah, j'ai pas forcément aimé la manière dont ça a été joué cette fois-ci »
Ça doit pouvoir arriver. Après, là, je n'aurais pas l'excuse de pouvoir dire ça, parce qu'on a quand même pris vraiment le temps ensemble de travailler. Donc, l'inverse est aussi vrai, c'est-à-dire que le compositeur doit arriver avec une vision de l'œuvre qui puisse permettre aux musiciens d'avoir les bonnes clés pour interpréter la partition, voire peut-être des choses jouables, parce que ça peut arriver que des gens, ça peut m'arriver aussi, d'écrire des choses qui le musicien va dire « mais ça, je ne peux pas le faire, c'est pas possible techniquement ». Donc, ça, normalement, ça n'arrive plus trop après un peu d'expérience, mais c'est valable dans les deux sens, c'est-à-dire que le compositeur a aussi une pression énorme de donner une partition qui soit valorisante pour le musicien. Alors pas valorisante dans le sens il va se la péter en jouant de la musique virtuose, mais plutôt qui met qui porte son travail et qui met justement la partition en exergue par rapport à tout ça, si je puis dire.
Est-ce qu'il y a des exemples dans ton souvenir de pièces que tu ne pouvais pas faire jouer à des musiciens musiciennes parce que vraiment il y avait des écarts de notes trop compliqués, des vélocités trop élevées? Ce serait quoi les raisons qui feraient que ce ne serait pas jouable? Ça, ce que je viens de dire.
Alors, il peut y avoir des erreurs, oui, des vélocités trop élevées, des changements de jeu. Là, il y a un exemple dans ce concerto, c'est que j'ai demandé à la violoncelliste de jouer des Pizz Bartok. Alors le Pizz Bartok, le principe du Pizz Bartok inventé par le compositeur Béla Bartok, compositeur du XXe siècle, c'est de prendre la corde de l'instrument et de la soulever pour la lâcher et la faire claquer sur la touche de l'instrument pour faire un son très percussif.
Ce qu'on appelle du slap dans la musique actuelle.
Et ben, en fait, l'équivalent serait le slap pour la clarinette ou le saxophone, par exemple. Effectivement, ce son un peu comme ça qui va claquer. Et la violoncelliste Anne-Marie me dit, mais là, il y a un petit souci, c'est que tu me demandes de faire ça beaucoup trop vite. Elle devait faire vraiment un rythme ta. Et en fait, c'était en soulevant une corde à vide. Et pourtant, j'ai joué vaguement des cordes quand même à une époque. Et c'est vrai que j'aurais dû me rendre compte que la corde à vide, en plus, a une inertie. Donc, c'est un bon exemple. Donc, elle m'a proposé. Elle est expérimentée dans la musique contemporaine. Elle en joue souvent. Et elle a fait une proposition qui était tout à fait... qui était même bien meilleure, en fait, c'est de jouer en percussion sur la touche.
Donc, c'est un véritable échange entre le compositeur et les musiciens, musiciennes.
Exactement. C'est un bon exemple. Merci de m'avoir posé la question. Parce que les musiciens peuvent dire, mais regarde, je te suggère plutôt ça. Ou si on le joue comme ça, ça sonne pareil et c'est plus simple pour moi, ce sera plus fluide, etc. Donc ça arrive très souvent, oui.
Ce n'est pas la première fois que vous pouvez voir et entendre une pièce d'Hugo Prigent jouée au Festival Autre Mesure, parce que j'ai trouvé un article de West France en 2018 qui indiquait donc cette pièce Django, création pour clarinette et son fixé, écrite par le compositeur René Hugo Prigent, notre invité donc, et qui était joué par l'artiste sonore canadien Adam Bassanta et le quatuor à cordes des grands élèves du conservatoire. Souvenir de cette pièce de 2018, Django?
Alors, c'était Constant Lebars, en fait, un élève, effectivement, un grand élève du conservatoire, qui l'a magnifiquement interprété. Il s'est vraiment super bien investi. C'était un bon souvenir. En fait, elle a été créée dans la serre pédagogique du lycée Saint-Exupéry, qui se trouve tout au nord de Rennes. Donc, on avait fait deux, à autre mesure, il y a eu deux années où il y a eu des concerts dans ce lieu, qui est assez atypique, puisqu'on est au milieu des plantes. Vraiment, on est dans une serre, un dimanche matin, en janvier, en plus. Donc, c'était vraiment bien. Et en fait, pour cette pièce Django, j'avais ramené des sons du Japon. C'est-à-dire qu'à l'occasion d'un voyage au Japon l'année précédente, c'est un univers sonore à faire un voyage. Je ne sais pas si tu as eu la chance d'aller en Asie ou en dehors de l'Europe, mais c'est vrai qu'il y a des oiseaux, il y a des sons même dans les villes, etc. Il y a les sons des instruments, entendre l'orgue à bouche au détour d'un temple, en passant à côté d'un temple. Donc j'avais pris comme ça des sons bon an, mal an, c'est-à-dire avec pas forcément un super outil de prise de son. Et ça m'avait servi effectivement de base pour cette pièce qui s'inspirait un petit peu de mes souvenirs de ce voyage, des bruits, des odeurs, des jardins. Voilà, c'est un petit peu ça le concept.
Quand on fait de la musique contemporaine, on n'a pas forcément toujours la chance de voir graver ces pièces pour la postérité. L'important, c'est tout de même qu'elles soient jouées, de toute façon. Oui. Et elles sont jouées assez régulièrement ou vraiment, comme tu le disais tout à l'heure, il peut y avoir des pièces que tu as composées et qui ont été jouées une fois ou quelques fois.
Ou jamais.
Fois, ou jamais.
Oui, effectivement, je n'attends pas forcément toujours d'avoir des commandes. Parfois, il y a des choses qui me viennent. Parfois, je réponds à des appels à partition aussi, mais souvent, il y a beaucoup de candidats et c'est un peu hasardeux de faire ça. C'est-à-dire qu'on peut passer plusieurs semaines ou plusieurs mois sur une partition qui ne sera pas retenue aussi. Après, voilà, je n'en vis pas. C'est vraiment une passion, c'est quelque chose qui est indissociable, je pense, de la personne que je suis. Donc j'essaye, oui, de faire jouer ma musique. Et puis c'est toujours une superbe expérience parce qu'on en apprend vraiment énormément. Le contact avec l'interprète, c'est ce qui nourrit le plus le compositeur, clairement. L'exemple que je donnais tout à l'heure avec Anne-Marie, la violoncelliste, on est un parmi tant d'autres. Voilà.
Il y a d'autres manières de découvrir le travail de Hugo Prigent, même si on ne suit pas ses cours ou si on ne va pas voir ses pièces. C'est par les bouquins sur le solfège.
Tout à fait.
J'avais envie qu'on termine là-dessus, par quelque chose qui est un peu le début pour un musicien, finalement, le solfège. C'est comme ça qu'on rentre en contact avec la musique écrite, même si on a quelques connaissances de la pratique. C'est arrivé comment, ça, dans ta vie, d'écrire un bouquin sur le solfège?
Alors, j'ai été contacté par une personne des éditions First, effectivement, pour ils voulaient un petit peu réactualiser leur littérature sur le solfège, et puis surtout faire un livre qui n'avait jamais vraiment été fait, c'est-à-dire un livre pratique. Il y avait des livres de théorie déjà dans les éditions là pour les nuls, enfin dans la collection pardon pour les nuls aux éditions First. Et là, l'idée c'était de faire vraiment un cahier d'exercices progressif, ce qui est la principale difficulté puisque la musique et le solfège se pratiquent par la régularité en tout premier lieu, et également par la très vite, c'était évident par la voix, en fait, par la voix chantée. Et c'est vrai que peut-être certaines personnes, en achetant ce livre, peuvent être déroutées en se disant « bah il faut chanter ». Mais en fait, oui, il faut chanter, même si c'est pour apprendre à jouer d'un autre instrument. Je crois que c'est indissociable. Enfin, on ne peut pas passer... je trouve, c'est mon opinion, hein, bien sûr, comprendre la musique si on la chante pas, ou si on la dit pas, ou si on la tape pas sur une table, ou sur même, enfin voilà, c'est vraiment ça. Et ayant commencé la musique relativement tard, ayant appris le solfège relativement tard, eh bien ça m'a enthousiasmé de faire ce projet, de partager justement cette expérience. C'est-à-dire que j'ai pas baigné dedans tout petit, donc les connexions neuronales sont pas les mêmes forcément quand on commence à 18 ans ou quand on commence à 5 ans. Et justement, l'idée, c'est vraiment de travailler un point précis dans la régularité chaque semaine. C'était vraiment ça le concept de ce livre, solfège pour les nuls, en 15 minutes par jour, je crois, l'intitulé exact.
Il est toujours disponible en librairie?
Oui, toujours disponible dans toutes les bonnes librairies.
Eh bien, cherchez donc cette version-là, ce solfège pour les nuls par Hugo Prigent, si vous avez envie, pourquoi pas, de rejoindre prochainement une formation ou de devenir compositeur vous-même. Allez savoir, ça peut commencer tard. Bon, évidemment, c'est mieux de commencer tôt.
Toujours, mais il n'est jamais trop tard pour bien faire.
Eh bien, il n'est jamais trop tard non plus pour aller découvrir une pièce composée spécialement pour le Quatuor Vitis et pour Philippe Lucacho. C'est ce concerto pour clarinette, basse et quatuor à cordes. C'est joué donc vendredi du côté du conservatoire site du Blône, place Jean Normand, je précise, métro station Le Blône. Vous avez la possibilité d'aller le voir dès 19h.
C'est 19h30 le début du concert. On va essayer d'être vraiment ponctuel par contre pour pouvoir ouvrir les portes de la salle à 20h.
Oui, parce qu'après il y a le concert de Vanessa Wagner. On termine avec encore un extrait de cette version d'enregistrement de travail du concerto qu'on écoutait déjà tout à l'heure. On va aller vers la fin de la pièce. Et dernière chose, tout de même, avant qu'on écoute un extrait du concerto, Hugo Prigent nous fait le plaisir d'une sélection pour la sieste sur Canal B. Tu l'as nommé Contemporain Classique Cosmique. Elle sera diffusée jeudi. Qu'est-ce qu'on va y entendre ?
Eh bien, déjà pas facile de composer une sieste musicale, mais je voulais quand même, effectivement, par rapport au fait que ce soit dans le cadre du festival Autre Mesure, faire vraiment quelque chose de basé un petit peu sur la musique contemporaine. Donc, je suis parti sur les classiques du contemporain, genre Arnold Schoenberg, par exemple, et sur le côté couleur et timbre musical, parce que c'est vraiment l'aspect qui m'intéresse le plus. Donc, par exemple, une œuvre de Kaija Saariaho, compositrice finlandaise, qui part aussi sur l'idée de couleur, de coloration des instruments avec des timbres, un jeu sur les timbres instrumentaux avec l'orchestre, ou une œuvre d'un compositeur un peu plus ancien, Giacinto Scelsi, compositeur italien, qui avait la particularité de vouloir composer des pièces sur une seule note, mais également sur toute la résonance qu'il peut y avoir autour, y compris pour grand orchestre. Donc c'est le type de musique que cette sieste comprendra, avec quand même un petit Beethoven, très calme, un Beethoven de la fin de vie, Beethoven sourd, cloîtré dans son univers abstrait. Je trouve que ça collait très bien avec tout ça.
Eh bien, rendez-vous jeudi de 14h à 15h. C'est l'heure tous les jours pour faire la sieste sur Canal B, prendre un petit peu le large et puis s'évader en musique. Merci Hugo.
Merci.
On écoute encore, donc, je le disais, un extrait du concerto pour clarinette, basse et quatuor à cordes. Merci beaucoup Hugo.
Merci beaucoup à toi.
parle encore du festival Autre Mesure dans les infos concerts de l'émission Le Grand Tout sur Canal B, avec l'évocation de ce qui vous est proposé par le festival à l'Antipode. Jeudi soir, vous retrouverez les musiciens Megabass et puis Bridger Heimbol en solo, chacun avec un instrument différent. Hein. Bridger Heimbol, elle joue de la cornemuse écossaise, et Megabass joue de la guitare à double manche, un 6 cordes et un 12 cordes. On écoute cette virtuose de la cornemuse écossaise qui va vous donner une nouvelle impression de ce que sont les musiques celtiques, où elle va aussi aller chercher quelques influences ambiantes ou électroniques. Elle propose vraiment un exemple de ce qu'est la musique folk au 21e siècle. On écoute donc un long morceau de Bridger Heimbol, à retrouver donc jeudi soir à l'Antipode. Bridget Rimble à l'instant, l'écossaise qui sera présente à l'Antipode jeudi grâce au festival Autre Mesure. Vous retrouverez aussi Pierre Bugeaud qui, sous le nom de Megabass, eh bien, propose des ambiances envoûtantes, lentes et lumineuses. C'est assez proche de la musique minimale. Il a une guitare à double manche, une 6 cordes et une 12 cordes. Il maîtrise ça comme personne. On écoute un long morceau de Megabass pour terminer le grand tout aujourd'hui. Un morceau qui peut-être nous rappellera quelques souvenirs des Rita Mitsuko, puisqu'il s'appelle Marcia Baila Sogna. Eh oui, Marcia, elle danse, mais elle rêve aussi. On se retrouve pour une nouvelle émission Le Grand Tout, mercredi, de 17h à 18h. Bonne soirée ou bonne journée sur Canal B, selon que vous écoutiez la première diffusion entre 17h et 18h ou la rediffusion entre 9h et 10h. Ciao!